Quel est le point commun entre le sucre, la neige, les pierres précieuses, les sels ou les métaux? Eh bien, ce sont les cristaux qui les structurent de manière régulière. Les cristaux sont partout dans la nature. Ils ont fait faire des pas de géant à la connaissance et sont utilisés pour d'innombrables applications. Tout allait bien dans le monde de la cristallographie jusqu'à ce qu'un chercheur dans les années 80 découvre un cristal dont le pavage ne se répète pas à l'infini. Comme un cristal classique, les quasi-cristaux étaient nés avec à l'appui un prix Nobel décerné en 2011. C'est cette science des cristaux qui est au cœur de notre dossier cet après-midi. Avec mes invités, vos messages et vos questions, vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, le plongeon de la sonde Cassini dans les anneaux de Saturne.
Oui Mathieu, pour la première fois hier après-midi, une sonde passait entre Saturne et ses anneaux. Un trou de serrure pour un passage risqué et historique que nous commentons avec le planétologue Gilles Davidovitch.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin qui s'est passionné cette semaine pour les greffes fécales. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Dylan Beiner avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le monde des cristaux et des quasi-cristaux, donc cet après-midi dans le dossier avec mes invités que je salue, les directeurs de recherche Denis Gracias et Sylvain Ravi. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. Sylvain Ravi, les cristaux dont nous allons parler ont-ils un rapport quelconque avec la vaisselle en cristal? Histoire d'éluder tout de suite la question.
Ah non, pas du tout. C'est une question qui paraît simple mais qui en fait est compliquée. Donc nos verres, même s'ils sont en cristal, ne sont pas faits de matière cristalline. Ils sont faits dans une matière qu'on appelle amorphe parce que les atomes sont désordonnés à l'intérieur de votre verre.
Denis Gracias, qu'est-ce qui distingue fondamentalement un cristal d'un quasi-cristal dont vous êtes l'un des grands spécialistes?
Un quasi-cristal ne peut pas être un cristal tout en étant un cristal.
Merci pour votre réponse.
Le quasi-cristal est ordonné comme un cristal. Malheureusement, il s'ordonne de façon telle qu'il ne peut pas être périodique. Et donc, il est le contraire d'un cristal, lequel est nécessairement périodique. Et ce paradoxe, nous avons mis quelques années à pouvoir le comprendre.
C'est ça. Et heureusement, vous allez nous aider à y voir encore plus clair d'ici les minutes qui viennent avec ce monde des cristaux qui s'ouvre à nous dans la tête au carré pour en comprendre la nature, les applications et les bouleversements avec vos messages sur le site de l'émission. Et la fin de mission risquée de la sonde Cassini qui est aujourd'hui à la une de la science.
Alors déjà Cassini, il y a eu 2 millions de commandes envoyées à la sonde. Il y a 7 lunes qui ont été découvertes. On a fait 132 rencontres avec les lunes de Saturne. Il y a eu 3 milliards de kilomètres parcourus par la sonde autour de Saturne. On a tourné 206 fois autour de Saturne. On a pu 332 000 images jusqu'en 2017. On ne sera pas loin du million d'images. C'est vraiment une excellente mission et très ambitieuse.
Voilà, c'était la voix de l'astrophysicien André Braik en 2014 avec aujourd'hui donc la sonde spatiale Cassini de l'ESA partie en 97 et qui devrait se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne en septembre prochain. Et d'ici là, donc, les équipes sur Terre entament une série de manœuvres périlleuses comprenant 22 passages entre Saturne et ses anneaux. Gilles Davidovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, président du comité de planétologie de la Société française d'astronomie. Alors, le premier passage a eu lieu hier, dans l'après-midi. On a repris contact avec la sonde seulement ce matin.
Et oui, seulement ce matin, parce que la sonde avait été inclinée, la grande parabole de communication avait été inclinée pour la protéger, comme un gilet pare-balles, finalement. Et donc, il faut effectivement repositionner tout ça vers la Terre, reprendre contact, vérifier que tout va bien, et c'est le cas.
Alors, 2000 km entre Saturne et ses anneaux, c'est vraiment compliqué de passer pile au milieu?
Alors d'abord, c'est très très loin et effectivement, c'est une zone qu'on n'a jamais explorée. Donc oui, c'est assez compliqué, c'est finalement le chat d'une aiguille dans lequel on va essayer de se faufiler.
On n'avait vraiment rien exploré jusqu'alors?
Non, de cette zone-là, c'est une zone finalement un petit peu dangereuse, dans le sens où pour une sonde spatiale, on préfère quand même éviter les poussières de toute taille et voir les petits cailloux ou voir un peu plus gros. Or, les anneaux de Saturne sont précisément des endroits que l'on souhaite éviter quand on navigue
dans l'espace.
Alors, quel est l'intérêt scientifiquement de faire ces passages, puisqu'il va y en avoir 22? On recherche quelque chose de particulier?
Alors oui, on va poursuivre la documentation de toute cette géographie inconnue. Donc, on va regarder un certain nombre de choses. On va se focaliser d'abord sur Saturne, la haute atmosphère de Saturne, essayer de faire des diagrammes, des profils en travers. On va observer la dynamique des gros orages et des tempêtes, des ouragans qui s'y produisent. On va étudier la magnétosphère, donc le le champ magnétique, on va étudier l'ensemble des effets plasmiques. C'est-à-dire, vous savez, les particules cosmiques et les particules solaires viennent frapper, comme sur la Terre d'ailleurs, la haute atmosphère de Saturne. Ça provoque des aurores polaires d'ailleurs, comme sur la Terre. Donc on va étudier tout cela, on va étudier la nature de l'atmosphère. On sait qu'il y a de l'hydrogène, on sait qu'il y a de l'hélium, mais on va encore raffiner tout cela, les températures, les choses comme ça. Deuxième sujet d'étude, le vide précisément qu'il y a entre la haute atmosphère de Saturne et les premiers anneaux.
Ouais.
Ce vide de 2000 km qu'on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas s'il est totalement vide, s'il n'y aurait pas des nouvelles petites lunes qu'on n'aurait pas vues encore.
Ah oui, il y en a déjà pas mal. Hein.
Il y en a des centaines des lunes, comme le rappelait le regretté André Braik. Effectivement, on a découvert grâce à la sonde énormément de satellites, de petites cacahuètes, pour dire la vérité. Ouais. Et alors, puis enfin, pardon, excusez-moi, pour terminer, on va se focaliser sur ce premier anneau qu'on ne connaît pas du tout.
Alors c'est précisément parce que c'est une mission risquée qu'elle est faite à la fin de la vie de la sonde Cassini qui va se crasher le 15 septembre. La date est déjà connue, on sait pourquoi on a cette durée de vie déjà prédéterminée.
Alors parce que c'est comme pour les éclipses, c'est la mécanique de Newton que l'on connaît et on peut donc précisément calculer et savoir à la minute près à quelle heure et quel jour nous serons dans l'espace, puisque les ingénieurs du JPL et de la NASA ont fait tous leurs calculs, aussi pour, et on va peut-être en parler, pour sauvegarder, non pas la sonde, mais l'environnement autour de Saturne, notamment Titan et Encelade.
Alors, Cassini va pas s'écraser, mais elle va se désintégrer dans cette gazeuse, comment on appelle les choses
exactement ? Oui, c'est très difficile de s'imaginer cela pour des êtres humains, puisque c'est un endroit, un écosystème, comme Jupiter, gazeux, liquide, on ne sait même pas s'il y a une surface sur Saturne.
On ne le sait pas, ça, encore.
Non,
aujourd'hui.
On le sait pas.
C'est incroyable, quand même.
Ouais. Et oui, c'est incroyable. C'est une planète gigantesque. C'est presque 700 fois le volume de la Terre. C'est le rayon de Saturne. C'est presque 60 fois le rayon de la Terre. Donc, c'est même pas humain, en fait, de concevoir un tel monde. Voyez-vous, c'est gigantesque.
Ouais. Pourquoi il faut vraiment que Cassini se désintègre? Elle ne pourrait pas continuer de tourner autour de Saturne?
Alors d'abord, la sonde, elle fait à peu près 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes, plus 3 tonnes de carburant à l'époque, sans parler de Huygens, qui était le petit module européen qui est parti se poser sur Titan, qui faisait 350 kilos. Donc ces 2 tonnes, maintenant on arrive quasiment à la fin du carburant, elle va devenir incontrôlable. Sans carburant, on ne peut pas la contrôler. Et pour sauvegarder Titan et Encelade, qui sont 2 lunes très importantes sur lesquelles il pourrait y avoir des molécules macrobiotiques, donc peut-être les briques qui pourraient mener à la vie, on ne veut pas prendre le risque de contaminer par Cassini, qui pourrait être mal désinfecté. Peut-être que Cassini embarquerait malgré nous des microbes endormis à bord.
Ah oui, donc il y a une vraie mesure de sécurité finalement.
C'est la loi. Il y a effectivement des règles internationales, il y a un droit de l'espace, un droit international où on oblige, on demande aux agences spatiales, l'agence spatiale française, européenne, chinoise, américaine, russe, etc., de désinfecter les sondes spatiales pour ne pas qu'elles contaminent potentiellement Mars ou Titan ou Encelade en l'occurrence.
Alors jusqu'à quelle distance de la surface de Saturne on pourra communiquer avec la sonde? Est-ce qu'on aura des photos très proches?
Aucune idée. Ah non. Ça, on sait que non, elle sera désintégrée très rapidement, quelques minutes après l'injection à l'intérieur des hautes couches de l'atmosphère. Ça va aller très très vite. D'abord, aujourd'hui, elle croise à 34 000 km par seconde. Donc imaginez cette vitesse, hein, c'est une vitesse fantastique évidemment. Et non, malheureusement, on sait d'ores et déjà qu'elle communiquera pas très très longtemps, quelques secondes, peut-être quelques minutes tout au plus, mais on n'aura pas d'image et d'analyse vraisemblablement très précise le 15 septembre.
Mais il y a encore du carburant dans Cassini, alors que cette sonde est partie depuis 1997. Il y a encore des gouttes à l'intérieur de
oui,
carburant.
Oui, il y a quelques kilogrammes vraisemblablement. J'ai pas les derniers chiffres, mais oui, il y a un petit peu de carburant encore.
Incroyable.
Vous savez, c'est la science de l'économie.
Ah oui, bah oui, là, il faut. Hein.
Exactement. Donc chaque kilo en orbite coûte très très cher, même quand on envoie une sonde de 5 tonnes.
Est-ce qu'il y a un risque que Cassini n'y tienne pas jusqu'au 15 septembre, qu'elle rencontre un grain ou...
Ah oui, tout à fait. C'est bien pour cela que la NASA, à chaque fois, va incliner donc cette antenne de communication comme un gilet pare-balles. Tout à fait. Il n'est pas exclu. On n'espère pas, évidemment, mais il est tout à fait possible qu'elle rencontre un grain de glace un peu plus gros qu'un autre ou un caillou, une petite roche, et que ça vienne percuter la sonde et qu'elle explose ou voilà, qu'elle disparaisse.
Sylvain Ravi, est-ce qu'il y a de la cristallographie dans une mission comme celle de Cassini ? Alors peut-être pas directement, mais on peut par exemple citer ce qui s'était passé sur Mars, où on avait réussi à amener là un générateur à rayons X pour faire de la cristallographie et étudier les sols de Mars.
Ah oui.
On peut aussi étudier des matériaux sous très très forte pression pour essayer de comprendre comment est l'intérieur d'une grosse planète, comme par exemple Jupiter ou peut-être Saturne.
Donc Axel, on se donne rendez-vous le 15 septembre, si tout va bien. Alors,
ah bah on espère être là, peut-être en direct avec vous, quelque part en particulier.
Alors la Cité des Sciences, avec la NASA, le JPL, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, l'Observatoire de Paris et l'Agence Spatiale Européenne, qui sont très impliqués, il faut le rappeler, hein, la France et les chercheurs français et européens sont extrêmement impliqués. André Braille, qui en a été l'un des plus glorieux et évidemment des plus connus, mais il y a des dizaines et des dizaines de chercheurs, d'astronomes et d'astrophysiciens, de planétologues qui sont impliqués. Bon. Donc rendez-vous le 15 septembre à la Cité des Sciences à Paris.
Et d'ici là, Cassini fera de la science et fera avancer la connaissance. Hein, on l'a compris avec ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup
Merci à vous,
Gilles Davidovitch. Et puis Axel, on se donne rendez-vous demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des os de mammouth, apparemment brisés par des hommes, relancent le débat sur l'arrivée des premiers peuplements sur le continent américain. Découverts en 2012 et datés de plus de 130 000 ans, ces ossements de mastodonte, une espèce de mammouth américaine, sèment le trouble. Ils ont été trouvés accompagnés de plusieurs grosses pierres rondes regroupées de façon peu naturelle. L'analyse des fractures de ces os, publiée hier, exclut toute action d'animaux carnivores ou de processus géologiques. Ne reste donc plus que des mains d'hominidés armées de pierres comme hypothèse. Si cette occupation humaine précoce du continent américain est confirmée, elle reculerait l'arrivée des hommes donc en Amérique de plus de 110 000 ans, rien que ça. La triste saison des algues vertes commence mal en Bretagne. Le littoral enregistre le pire printemps depuis 2009 avec des échouages massifs extrêmement précoces. Une mauvaise nouvelle pour la région qui a enregistré une baisse de volume collectée depuis pourtant 2010. Cette pollution due à la prolifération d'algues toxiques est essentiellement due à l'utilisation massive d'engrais à base de nitrates qui regagnent la mer en favorisant leur développement. Malgré plusieurs plans d'urgence mis en place depuis 2011 et une diminution drastique des nitrates utilisés dans l'agriculture, la Bretagne paye aujourd'hui les erreurs du passé car les composés présents dans les sols peuvent mettre plusieurs années à être drainés vers la mer. Et puis pour finir en image, nous vous proposons l'impression en 3D d'un bâtiment par un robot parfaitement autonome. Imaginé par des architectes américains, ce robot bâtisseur est capable, sans la moindre aide humaine, de construire un abri en forme d'igloo, couche par couche et commençant par une couche de mousse isolante. Il va ensuite récolter autour de lui de la matière nécessaire pour faire des murs en béton. Quelques finitions nécessitent encore l'aide de l'homme, mais à terme, des escadrons de robots bâtisseurs pourraient être déployés sur Mars ou sur la Lune pour y construire une base avant même l'arrivée des hommes. Une vidéo de ce robot est visible sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, Christo et quasi-Christo dans un instant. Voilà une exclusivité France Inter avec à l'instant et avant la sortie demain de leur nouvel album, un premier titre, Carnival, de l'album de Gorillaz.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Cristaux et quasi-cristaux au cœur du dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités Denis Gracias et Sylvain Ravi. Denis Gracias, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes spécialisé dans la science des matériaux et donc en particulier dans ces quasi-cristaux que vous avez d'ailleurs contribué à décrire en développant notamment des modèles théoriques. Et puis Sylvain Ravi, vous êtes directeur du laboratoire de physique des solides d'Orsay, ancien responsable de la ligne cristal au synchrotron Soleil. Vous nous rappelez ce qu'est le synchrotron d'ailleurs ?
Alors, un synchrotron, on va plutôt l'appeler un centre de rayonnement synchrotron. Donc, c'est une institution dans laquelle il y a des tas de grosses machines. Parmi ces machines, il y a un système d'accélérateur qui fait tourner des électrons. C'est une particule qui porte la charge électrique à la vitesse de la lumière sur un anneau.
C'est un gros accélérateur.
C'est un gros accélérateur, oui. Ouais. Donc, l'anneau qu'on appelle anneau de stockage parce qu'on y stocke ces électrons qui vont tourner à peu près à la vitesse de la lumière, vont émettre une lumière qu'on appelle le rayonnement synchrotron, une lumière au sens physique du terme, c'est-à-dire que ça va de l'infrarouge à la lumière visible, aux rayons X, aux rayons ultraviolets, etc. Ouais. Et tout autour de cet anneau, on y met des expériences qui vont chacune utiliser un type de rayonnement, les ultraviolets, et pour la cristallographie, les rayons X.
Voilà, et cet appareil se trouve en région parisienne.
Il est sur le plateau de Saclay, sur la commune de Saint-Aubin.
Denis Gracias, en parlant ensemble donc cet après-midi de cristaux et de quasi-cristaux, est-ce qu'on parle d'une même et seule famille au sein de la cristallographie, ou est-ce qu'il faut bien distinguer les deux choses ?
J'aurais tendance, quant à moi, à penser que c'est bien une seule et même famille. Il peut y avoir des... Les distinguos, vous allez voir, sont finalement subtils.
Ouais. Mais essentiel quand
mot,
même. Hein.
Oui, essentiel. Juste un point, le mot quasi-cristaux vient de quasi-périodicité. Surtout, il ne faut pas l'entendre comme quasi à peu près, pseudo. Mm-hmm. Le mot quasi, chez les mathématiciens, qui sont des gens très sérieux, comme vous le savez,
bien sûr.
Quand ils utilisent un mot, ils le définissent avec la perfection. Donc quasi-périodique a un sens très, très précis.
Ouais. Alors justement, ça fait plusieurs fois que vous parlez de périodicité. Oui. Qu'est-ce qu'il faut entendre alors également ?
Alors, périodicité, c'est quelque chose de très simple. Vous prenez un timbre, vous prenez la planche du timbre. Cette planche de timbre, c'est la répétition à l'identique d'un même objet, ce timbre. Sur le timbre, il y a un dessin qui peut être aussi compliqué que vous voulez, mais par contre, les timbres sont posés les uns à côté des autres de façon périodique. C'est-à-dire que s'ils se répètent à l'identique, dans les deux directions de la planche, et on pourrait imaginer sa généralisation à trois dimensions, en X, Y et en Z. Ça va former un objet périodique, c'est-à-dire il y a ce que nous allons appeler un motif, c'est le timbre, le dessin qu'il y a sur le timbre, qui va se reproduire à l'identique, et selon une répétition toujours la même dans les trois directions.
Ça nous rappelle le tableau des éléments périodiques quand on était à l'école, Sylvain ?
Oui, il y a de la périodicité, effectivement, mais c'est vraiment pas la même. On est en chimie. Et puis la périodicité est plutôt reliée au nombre d'électrons qui tournent autour du noyau atomique.
Quand est-ce qu'on a découvert cette science de la cristallographie, alors, exactement, Denis Gracias? Ça fait longtemps qu'on s'intéresse à cela?
Oui, ça fait longtemps. Bien entendu, les gemmes et d'une façon générale, les cristaux, ce qu'on appelle les cristaux, ont toujours attiré l'attention de l'homme parce que ce sont des objets parfaits, ce sont des objets très beaux.
Alors, donnons un exemple concret, le flocon de neige.
Oui, je pensais au diamant.
Ou le flocon de neige, exactement.
Le flocon de neige, bien sûr, mais qui mérite quand même qu'on le regarde de très près. Ouais. La première science qui existe toujours, mais qui a été celle qui est à l'origine de la cristallographie, s'appelle la minéralogie. Ouais. On va étudier les minéraux, ce qu'on extrait de la Terre. Et parmi ces minéraux, il y a des objets qui sont informes, qui sont pas beaux à voir, et puis certains, des fois, on les sort, c'est une pierre précieuse, c'est une émeraude, sais-je.
Et on voit une organisation très structurée, quoi.
Alors voilà, ce qui va se produire, c'est que quand on voit ces objets-là, ils ont des facettes naturelles. Ça, c'est un premier point extrêmement important. Et quand on prend deux objets de la même nature chimique, les facettes se ressemblent sans être identiques. Mmh. Et c'est l'abbé René Juste Ahuy, frère d'un plus célèbre que lui, qui est celui qui s'est occupé des aveugles.
Il était minéralogiste ?
Voilà, il était minéralogiste. L'histoire veut, mais comme elle est belle, je ne sais pas si elle est exacte et c'est pas important, qu'à l'époque, bien entendu, tous ces minéralogistes s'échangeaient de très beaux cristaux et il aurait eu, de la part d'un de ses amis, un cristal que, par mégarde, il aurait laissé tomber. Ce cristal se serait brisé, bien entendu, à son grand dam. Et il a eu cette intelligence. Je vous raconte cette histoire, et bien entendu, elle est sous toute réserve, mais peu importe, l'esprit y est.
Exactement.
Il aurait cette intelligence de comparer entre eux tous les petits morceaux. Pour s'apercevoir que, bien sûr, ils n'avaient pas les mêmes morphologies. Certains étaient gros, certains étaient petits, certains avec beaucoup de facettes, d'autres pas beaucoup. Mais ils avaient en commun une chose remarquable. C'est là où est le génie de l'observateur, c'est que les angles formés entre les facettes, ces angles, se retrouvaient à l'identique entre tous ces objets. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les facettes, il s'est intéressé à l'orientation, la droite perpendiculaire à chaque face. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il a repéré dans l'espace comment ces orientations se distribuaient et s'est aperçu qu'elles étaient les mêmes pour tous les morceaux en question.
Sylvain Ravi, c'est cette régularité éternelle, infinie en tous les cas, qui caractérise le cristal ?
Oui, alors il faut comprendre dans cette histoire que les atomes, on ne les voit pas. Même si maintenant on a des moyens pour les observer, à l'époque en tout cas on ne les voyait absolument pas. Et donc la cristallographie est née par l'observation des faces.
Parce que
c'est vraiment très important.
Ce que vient de décrire Denis Gracias, c'est la structure des atomes, c'est la façon dont ils sont disposés.
La structure périodique des atomes fait que les cristaux ont des faces. Mmh. Et c'est par l'observation de ces faces et des lois de ces faces qu'on a pu comprendre et que Haüy a compris, a émis l'hypothèse en tout cas, qu'il y avait un empilement périodique de petites molécules intégrantes, il appelait ça, dans le cristal.
Ouais, alors justement, écoutons ce petit reportage pour aller un petit peu plus loin sur la définition et l'étymologie justement du cristal.
Première définition d'un cristal, c'est un minéral qui apparaît avec des parties plates, comme s'il avait été limé, taillé par un artisan. Ce qu'on appelle des faces, hein. Ces faces plates, disposées géométriquement. Certaines sont à 90 degrés, d'autres à 120 degrés. Et lorsqu'on mesure les angles, c'est exactement 90 degrés, exactement 120 degrés. Donc voilà la première manifestation du cristal. Cristal a la même racine que cryogénie, c'est-à-dire cryos, le froid. Le cristal de roche, donc ce quartz incolore et transparent, ressemble à de la glace. Et les philosophes grecs antiques pensaient que c'était une glace qui avait subi un froid tellement important qu'elle ne pouvait plus se retransformer en eau.
Voilà, c'était la voix de Jean-Claude Bouillard, qui est enseignant-chercheur à l'université Pierre et Marie Curie. Vous le connaissez,
Sylvain Ravi. Oui, bien sûr, je connais très bien. Il y a un magnifique musée dont il est responsable. Il faut absolument aller voir.
Absolument, pour aller plus loin dans ce sujet. Il y a cette idée donc de symétrie dans le cristal.
Alors, la symétrie, c'est une autre histoire. Vous voulez que je vous explique là
deux mots,
la symétrie? Ben écoutez, prenez un triangle, tournez-le d'un tiers de tour, vous avez dans la même orientation. Prenez un carré, tournez-le d'un quart de tour, il est dans la même orientation. Prenez un hexagone, tournez-le d'un sixième de tour, il est dans la même orientation. Et on appelle ça des symétries d'ordre 3 pour le triangle, 4 pour le carré, 6 pour l'hexagone.
Et le 5,
voilà.
Il est où
je l'ai passé exprès. Donc le 5, il se trouve qu'il n'est pas compatible avec la périodicité de translation. Et c'est ce qui a étonné, je me rappelle, j'y ai les crazy cristaux ont été découverts, on avait quelque chose d'ordonné, on le voyait aux rayons X, et qu'il y avait une symétrie 5. Et dans tous les cours de cristallographie, on nous expliquait que
c'était
ce
interdit,
n'était pas possible.
Ça n'existait pas, voilà. C'est ça. Voilà une révolution avec cette découverte, Denis Gracias.
En tout cas,
ça a tout chamboulé en fait dans la perception de la cristallographie.
Un peu. Tout, je ne dirais pas. Parce que le terreau était posé. Les gens avaient découvert depuis les années 36-40 environ des objets qu'on appelle les phases incommensurables. Vous voyez le mot, incommensurable, ouais. Qui ne peut pas être mesuré avec. Hein. C'est-à-dire que s'y distribuaient des périodicités, je reviens sur ce mot, des périodes, n'est-ce pas, de tailles différentes et incommensurables entre elles, alors qu'on peut, dans l'espace, n'en mettre que 3, car nous sommes à 3 dimensions. Il y avait souvent 4 incommensurations. Ça a permis à un grand cristallographe hollandais, dans les années 70, au début des années 70, qui s'appelle De Wolf, d'émettre l'hypothèse qu'on pouvait décrire ces incommensurables, non pas avec un espace à 3 dimensions, mais d'en rajouter une 4e. Mmh. Ce qui était effectivement, conceptuellement très simple, qui est beaucoup moins pratique quand on s'agit de les dessiner, puisque nous savons dessiner à 3D et pas ailleurs. Et puis, quand les quasi-cristaux sont arrivés, ceux que l'on connaît bien, Sylvain et moi, sont essentiellement icosaédriques. Vous avez vu un icosaèdre?
Ah, mais j'en ai pas croisé depuis longtemps.
C'est vrai?
Rappelez-moi ce que c'est.
C'est un solide très beau, très régulier, qui a 20 facettes triangles. Mais vous avez peut-être rencontré son frère, dual, qui s'appelle le dodécaèdre.
Mais c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
C'est un solide qui a 12 facettes pentagonales, cette fois. Les amateurs du jeu Donjons et Dragons, des choses comme ça, possèdent ces dés, parce qu'évidemment, ils ont de nombreuses facettes qui ouvrent de nombreuses solutions aux problèmes posés. Et c'est cette phase qui a été découverte par Schechmann et qui est descriptible. On s'en est aperçu, je pourrais vous embrosser rapidement l'histoire parce qu'elle est amusante. On s'est aperçu assez rapidement, quand on a eu compris, qu'elle était descriptible comme un cristal périodique, mais avec 6 dimensions. Bien entendu, l'objet n'a pas 6 dimensions. L'objet rentre dans votre studio, qui n'est qu'à 3 dimensions, j'en suis tout à fait confus. Et toutefois, la description mathématique, elle, réclame 6 variables d'espace. Et c'est ça qui a permis, en gros, un grand physicien, Aloysio Janer, au moment de la découverte, quand je l'ai exposé à l'IHES, à l'Institut des Hautes Études Scientifiques, a dit « Ah, ça, c'est le chaînon manquant de la cristallographie. »
Ah oui, donc c'était pas rien, quand même.
Oui, c'était très important. Parce que ce que n'avaient pas pensé les gens des incommensurables, c'est que ça pouvait augmenter la symétrie. On pensait toujours que ça pouvait la baisser, mais pas l'augmenter.
Allez, on revient vers vous dans un instant pour la suite de cette discussion autour du cristal et du quasi-cristal. Et puis bien sûr, les applications, on va évoquer tout ça avec vous dans un instant avec les messages des auditeurs. Cajun, Isaac Delusion à l'instant sur France Inter. cristaux et quasi-cristaux dans notre dossier cet après-midi avec mes invités Denis Gracias et Sylvain Ravi, avec également les messages des auditeurs. Il y a Marjorie d'ailleurs qui nous conseille, pour ceux qui aiment les cristaux et qui passent par Londres, la visite du Muséum National d'Histoire Naturelle qui contient quelques cristaux et pierres précieuses de toute beauté. Mais on peut en voir aussi en France d'ailleurs, hein, Sylvain Ravi. Hein.
Oui, oui, moi je connais trois grands musées à Paris. Donc il y a celui du Jardin des Plantes, celui de l'École des Mines et celui de l'Université Paris 6.
On peut y voir quelques raretés dans ce monde de la cristallographie.
Ah oui, je pense. Oui. Alors, j'ai en tête un énorme cristal de calcite qui est biréfringent. Vous voyez deux images qui est historiquement le cristal que Haüy a cassé, dont on parlait tout à l'heure.
Denis Gracias, est-ce qu'il y a un cristal, vous, qui vous tient particulièrement à cœur dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, tiens, en France, par exemple, avec des formes incroyables, hein. C'est vrai que c'est assez sidérant, ce qu'on peut
voir. Il y a eu cette extraordinaire exposition, il y a quelques années, des cristaux géants venant du Mexique, qui est itinérante, je ne sais pas où elle est aujourd'hui.
Patrice nous dit, comment fait-on pour qu'un cristal donne un tempo parfait dans une montre? Tout est lié au cristal, justement?
Ah oui, donc là, c'est une propriété qu'a, par exemple, le quartz. Et ça s'appelle la piézoélectricité. Donc ça veut dire que lorsqu'on comprime un petit cristal, il y a une charge électrique qui va apparaître, une petite tension. Et réciproquement, si on applique une petite tension, ce cristal va se déformer. Et donc on peut le faire résonner, c'est-à-dire vibrer très rapidement à une fréquence extrêmement précise.
Et éternelle, cette vibration, elle sera éternelle?
Ah, il faut quand même l'alimenter en énergie. Ouais. Hein, le mouvement perpétuel n'existe pas. Mais voilà,
toujours,
c'est toujours la même fréquence.
Denis Gracias.
Oui, absolument. Ce qu'il faut comprendre, et déjà on a quelque chose d'assez profond derrière cela, c'est l'idée que quand on répète un même objet à l'infini, ses propriétés sont multipliées, sont exaltées. C'est-à-dire que si l'on prenait qu'une molécule seule, vous pourriez avoir un effet. Mais quand vous en prenez des millions, qui sont toutes en phase les unes avec les autres, parce que placées de façon périodique, alors ce phénomène est exalté. Il est exalté à un point tel qu'il devient macroscopique. Nous pouvons le mesurer. Et c'est la périodicité. La périodicité ne s'arrête pas à la cristallographie. Mmh. Nombre de gens dans physique ont conçu des expériences en multipliant une même expérience pour en regarder les interférences.
Et ça change tout, justement, dans la façon d'observer les choses?
Ça change que le fait qu'on arrive à avoir des résolutions et des sensibilités considérables.
Vous avez des exemples concrets à nous donner?
Il y a eu un exemple sur la résonance du neutron, il y a un certain nombre d'années, où... en effet, en faisant l'expérience deux fois, on a multiplié la précision et la sensibilité de la manip.
Alors, il faut quand même revenir un petit peu sur les rayons X, hein, Sylvain Ravi, quand on parle de cristallographie, évidemment. Alors, je voudrais, pour introduire ce sujet, écouter en 1956 la voix d'un homme, Maurice de Broglie, physicien, qui racontait l'histoire des rayons X, et on l'écoute tout de suite.
Le physicien allemand Röntgen faisait en 1895 une expérience sur le passage de l'électricité à travers les gaz. Il aperçut qu'un écran au platino-cyanure de barium devenait le siège d'une vive lumière.
Et quel fut son premier cliché radiographique?
Eh bien, ce fut, je crois...
La main de sa femme.
Carrément.
Oui, qu'il radiographia, et c'est un document assez émouvant que nous reproduisons ici. Et quel sort il avait donc trouvé? À peu près toutes les propriétés des rayons X, est-ce qu'il les avait trouvées toutes?
Oh, loin de là. En particulier, on ne savait pas du tout ce qu'étaient ces rayons, quelle était leur place dans la gamme des radiations et leur longueur d'onde. C'est pour ça qu'ils les appelaient rayons X et que leur nom en est resté.
Voilà, Maurice de Broglie, hein, en 1956, avec cette photo ultra célèbre. On voit effectivement la bague sur la main de sa femme.
De sa femme Bertha.
Ouais, photo qui est à Munich, hein, je crois, aujourd'hui. Alors, le lien entre rayon X et les cristaux?
Alors, le lien, c'est 1912. Donc, en 1912, Max Laue, qui est un Allemand qui travaillait à Munich, a l'idée d'envoyer ces rayons X, dont on ne connaissait pas la nature, sur un cristal. Il se dit que, puisque... les rayons X sont sans doute une longueur d'onde très très courte, c'est pas encore certain, et que les cristaux sont sans doute un empilement d'atomes sur des distances comparables à la longueur d'onde, mais on n'en est pas certain non plus, et ben on va faire la manip d'envoyer des rayons X sur les cristaux, et ils découvrent ce phénomène de diffraction, qui est donc le fractionnement, c'est l'origine du nom, du faisceau que l'on envoie en de multiples petits faisceaux, ce qui donne des petites taches sur un écran qu'on met à côté, derrière le cristal.
Donc c'est la découverte que les rayons X, ce sont des ondes, et ben voilà, comme la lumière,
exactement,
en fait.
C'est exactement
le même principe.
Les rayons X, c'est de la lumière avec une longueur d'onde de l'ordre du nanomètre pour fixer les X.
Ça lui vaut un prix Nobel au passage quand même.
Ah oui, bien sûr, il y en a même d'autres qui sont reliés à ça. Ouais, parce que tout de suite après,
Oui. Alors, Bragg. Qui continue l'histoire? Denis Gracias, par exemple, après 1914 et ce prix Nobel.
Alors, je vous donne des dates, parce que ça s'est passé en juin 1912. Laue et ses deux compères, Friedrich et Knipping, publient dans un journal bayerische, je vais vous le dire, Interferenzen Erscheinungen bei Röntgenstrahlen, dans l'académie de bavaroise, juin 1912, n'est-ce pas? Et ensuite, la diffraction, donc, expliquée par le fils Bragg, est un papier, The Diffraction of Short Electronic Waves by Crystals, c'est novembre 1912.
Ouais, donc ça va vite quand même,
ça
là,
il
se passe plein de choses.
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et donc, finalement, fin 1912, il y a tout ce qu'il faut pour commencer la cristallographie moderne.
Ouais. Mais alors exactement. Et alors, cette cristallographie moderne, c'est quoi au fond? C'est comme un nouveau microscope pour observer des choses d'une façon complètement nouvelle.
Voilà exactement ce que Bragg va apporter et ce que n'avait pas compris Max Laue, en fait, qui lui s'intéressait plutôt à l'interaction entre les rayons X et le cristal. Mais Bragg lui va comprendre qu'on peut déterminer les structures des cristaux en envoyant des rayons X sur un cristal et en détectant cette diffraction. Ouais. Et donc, à partir de 1912, très rapidement, dans les années qui viennent, alors bien sûr il y a la guerre 14, mais très rapidement, on va déterminer des structures de matériaux très simples. Le sel de cuisine, par exemple, NaCl. Les gens pensaient qu'il y avait des petites molécules NaCl les unes à côté des autres. C'est pas ça. Ils sont tous à égale distance les uns des autres. Les matériaux vont devenir de plus en plus compliqués et puis on va arriver dans les années 20 à faire des structures de molécules organiques un petit peu plus complexes.
Mais écoutez, justement, on a un petit exemple à vous proposer pour comprendre ce qu'est la cristallographie avec du sucre et du caramel.
On pourrait schématiser une lave volcanique par du sucre et son équivalent qui est le caramel. On le fait chauffer un petit peu et on va le fondre. On est passé d'un système qui était cristallisé à un état fondu. Et quand on va refroidir ce sucre qui est fondu, on va obtenir du caramel. Le caramel, c'est du verre. Ça représente la même chose par rapport au sucre cristallin que du verre à vitre par rapport à un mélange de quartz, de calcite et de soude.
Voilà, c'était la voix de Daniel Neuville qui travaille à l'université Paris Diderot. Sucre et caramel, c'est un bon exemple, Denis Gracias?
Oui, pour comprendre.
Bah dis donc, c'est-à-dire dans l'enthousiasme.
C'est-à-dire que je trouve que c'est un exemple déjà difficile et déjà compliqué, parce que le caramel est un objet amorphe, donc sans forme, enfin non cristallin en tout cas, mais qui n'est pas sans forme. Justement, je me contredis. C'est-à-dire que c'est déjà un objet très complexe, n'est-ce pas? Les cristaux simples nous entourent de partout. C'est effectivement, évidemment, le chlorure de sodium, mais c'est aussi ce que vous avez. Le sucre, certes, c'est un objet déjà compliqué. Je pensais aux métaux. Très curieusement, je me suis aperçu que les gens ne songeaient pas que les métaux étaient des cristaux. Hein. L'acier, l'aluminium, tout ça, ce sont des cristaux. Et puis, bien entendu, le silicium fameux qui est dans tous nos ordinateurs. Et une grande partie des objets qui nous entourent sont cristallins, mais on ne s'en aperçoit pas.
Ouais, donc énormément de cristaux dans la nature.
Oui.
Ça abonde partout, partout, partout.
Absolument, mais il faut peut-être aussi signaler qu'à partir des années 20-30, on va réussir à cristalliser des molécules biologiques, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et dans ce cas-là, la biologie va devenir une partie de la cristallographie et c'est vraiment une aventure extraordinaire.
Et on s'en sert pour quoi alors, par exemple?
Et ben, on s'en sert pour déterminer la structure des grosses molécules, l'hémoglobine, les protéines, et donc il y a énormément d'activités scientifiques autour de cette activité, parce que ça peut nous aider à faire des nouveaux médicaments. Si on sait la forme d'une protéine, on peut dire où vont les médicaments.
Ouais. Denis Gracias.
Oui, alors en effet, peut-être qu'aujourd'hui, la partie la plus importante de la cristallographie, c'est la biologie. Je vous rappelle, et nous l'avons tous en tête, l'ADN.
Alors c'est ça.
La découverte de l'ADN, donc
la structure
Nobel
en double
1962,
hélice, par exemple, on doit ça à la cristallographie?
Absolument, absolument. Et ça reprend le problème que je vous disais tout à l'heure, étudier un objet seul est possible, mais est difficile, quand on va mettre ce même objet et le reproduire à l'identique de façon périodique dans l'espace, on va exalter les propriétés et on va pouvoir ainsi trouver la structure de l'objet lui-même.
Ouais.
L'ADN donc va être mis en évidence cristallographique par Madame Rosalind Franklin. J'ai les diagrammes sous les yeux là de diffraction, c'est absolument magnifique. Bien entendu, il faut être un peu averti pour comprendre que ça représente une hélice, une double. Ça, c'est pas évident à le lire.
C'est ça,
mais une hélice, oui, c'est, on le comprend presque facilement. Mais je ne sais quel autre moyen aurait pu être utile pour découvrir cette structure en hélice de l'ADN.
La découverte de l'insuline, par exemple.
Alors, l'insuline est découverte...
La forme.
C'est-à-dire déterminer la forme de... Comprenez bien que ces molécules complexes, finalement, il y a bien entendu la formule chimique qui est très importante. Mais ce qui l'est presque plus... enfin au-delà de la formule chimique, c'est la façon dont les atomes se répartissent dans l'espace. Parce que c'est ça qui va faire s'ils sont ou non actifs. Or, Dorothy Hodgkin va recevoir en 1964 le prix Nobel de chimie. Tout ça, c'est des prix Nobel de chimie, mais qui sont des bases fondamentales de la biologie, vous l'entendez bien, pour avoir trouvé comment s'organise l'insuline dans l'espace. Et à nouveau, comment l'a-t-elle fait ? Par ce phénomène de résonance, de la cristallographie. Ouais. Comme dit Sylvain, elle a réussi à cristalliser de l'insuline, et c'est ce cristal qu'on regarde.
Et c'est grâce à ça qu'on peut faire de l'insuline synthétique aujourd'hui. C'est parce qu'on a compris, en tout cas, comment était ordonnée la structure de l'insuline. Exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a énormément.
Énormément.
On se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion. Praise you, Fatboy Slim.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Sur le chemin du monde des cristaux, avec mes invités cet après-midi, Sylvain Ravi et Denis Gracias. Vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Catherine qui nous dit, j'aimerais signaler aux auditeurs le magnifique musée de l'espace Terra de Chamonix qui relate la recherche des cristalliers en montagne et l'exposition adjointe sur de fabuleux cristaux. Donc si vous êtes dans le secteur, vous pouvez y aller. On est encore dans la minéralogie là, Denis Gracias.
Oui, en effet. Ce que... vous voulez faire ressortir en particulier, c'est que la cristallographie aujourd'hui est une technique et une science qui va chercher à comprendre comment les molécules et comment les atomes se placent les uns par rapport aux autres, à l'échelle de l'angström, du dixième de nanomètre. Parmi eux, bien sûr, les objets qu'on peut étudier, il y a les cristaux, ceux dont vous parlez de minéralogie, mais surtout, Ceux qui sont aujourd'hui extrêmement utiles, c'est les composés biologiques. Nous vous en avons parlé de pharmacie, par exemple. Ce sont tous les composés de la haute technologie, à commencer par, bien entendu, les puces de silicium. Et ce sont tous les objets métalliques qui nous permettent de faire des avions, des moteurs, etc. Ouais. Tout ça, c'est le domaine de la cristallographie. Donc, vous voyez, la cristallographie ne se borne pas à l'étude de beaux minéraux, c'est pas ça, du tout. Ouais. C'est vraiment un objet, les objets de tous les jours, de l'industrie.
Sylvain Ravi, quand on prend un médicament, on peut avoir une pensée pour la cristallographie la plupart du temps?
Peut-être pas la plupart du temps, mais en tout cas, les cristallographes essayent, oui, de comprendre comment les médicaments vont pouvoir se greffer sur une molécule donnée, ouais, à partir des résultats de cristallographie.
Au synchrotron, vous avez une ligne dédiée
Il y a même deux lignes qui sont dédiées, ouais, à la structure des macromolécules biologiques. On peut citer, par exemple, ça n'a pas été fait à soleil, mais le ribosome, qui est la machinerie qui synthétise les protéines à partir de l'ARN, sa structure qui contient plusieurs centaines de milliers d'atomes, ouais, a été réalisée il y a quelques années et on a eu le prix Nobel, les gens qui ont fait le boulot ont eu le prix Nobel pour ça.
Ouais. Denis Gracias.
Sur ce sujet, dans les 10 dernières années, on a mesuré pas moins pour les prix Nobel de chimie et de biologie que 6 prix Nobel, 6 sur les 10.
Oui, pas moins, oui, effectivement.
Sont dus à des travaux de cristallographie. Je ne dis pas que ce sont des travaux de cristallographie, mais les résultats obtenus sont dus à la cristallographie.
Sylvain Ravi, donc d'innombrables applications, hein, on le comprend bien, dans tout un tas de
domaines. Oui, bien sûr, mais
très
c'est même devenu un paradigme dans ma discipline, qui est la physique de la matière condensée, donc solide et matière un peu plus molle. On ne peut pas se passer de connaître la structure d'un matériau avant de l'étudier. Donc c'est forcément un prérequis de faire de la cristallographie.
Monique demande, est-ce qu'on a des cristaux dans le corps? Je me demandais si on pouvait considérer l'ADN comme un quasi-cristal.
Non, un cristal. Sauf que quand il est dans le corps, il n'est pas sous forme cristallisée. Hein, enfin, je l'espère. Quand on cristallise, c'est mauvais signe.
C'est mauvais signe, oui, effectivement. C'est le temps de s'inquiéter, en tout cas. Revenons donc aux quasi-cristaux pour terminer cette histoire de la grande famille de la cristallographie, parce que cette histoire est très récente, quand même. Hein. Ce chamboulement, c'est les années 80, Denis Gracias, donc c'est quand même très, très récent.
Oui, je trouve que moi, c'est très récent, mais je commence
à vieillir. Fait longtemps que vous travaillez dessus, et vous y avez beaucoup contribué, d'ailleurs, à révéler cette histoire, et surtout à la comprendre, avec cette structure dont vous parliez tout à l'heure, totalement inattendu. Hein.
Alors, que je vous dise un mot sur l'état d'esprit, si j'ose dire, les quasi-cristaux ont été bienvenus finalement à plus d'un titre. Un titre intellectuel, bien sûr, puisque
Pour la
connaissance. Ouais. Mais aussi peut-être pour la cristallographie. Ainsi que nous l'avons noté, la cristallographie est devenue une source routinière. Nous en avons besoin pour comprendre toutes les propriétés de la matière solide, car les propriétés de la matière solide dépendent de la façon dont les atomes se situent les uns par rapport aux autres. Et c'est la cristallographie qui nous donne la solution. Ouais. À partir de quoi la cristallographie est petit à petit apparue, à tort, comme étant plutôt une technique qu'une science. À savoir que finalement, vous demandez à votre cristallographe ami de faire la structure et on n'en parle plus. Ce qui, bien sûr, pose énormément de problèmes, mais petit à petit, ça avait fini par disparaître. La découverte des quasi-cristaux est venue jeter un petit peu de désordre dans cette affaire et c'est bienvenu pour montrer que la cristallographie avait aussi, du point de vue conceptuel, une évolution dans la façon de comprendre le monde et de comprendre l'ordre dans le monde. L'affaire est tout à fait bénigne, elle arrive à un moment, le 8 avril 82, parce que, alors si c'est très précis comme ça, c'est parce que là, la technique qui est à l'honneur est la microscopie électronique. Et Schechmann va, ce jour-là, à la microscopie électronique, observer un alliage d'aluminium et de manganèse. Je suis dans les métaux. L'aluminium, vous le connaissez bien, c'est les feuilles d'alu de la cuisine, et elles ont comme propriété d'être très molles. Donc on va rajouter un élément dedans, ici le manganèse, excusez-moi, mais ça aurait pu être un autre objet. Et le jour, ce 8 avril, il va regarder un échantillon à L6Mn dans son microscope, en transmission, et il découvre que les cellules d'aluminium usuelles, il y a dedans une espèce de, nous avons parlé de flocons de neige, ben là, il y a des flocons, mais ces flocons ont des formes pentagonales.
Ouais.
Il en fait la diffraction des électrons, c'est la même chose que la diffraction des rayons X, mais avec des électrons, ne nous inquiétons pas. Et il observe là le diagramme, celui que chaque chercheur rêve de regarder dans sa vie, c'est-à-dire un truc impossible. Ça diffracte, c'est donc un cristal, mais il y a des pentagones partout, donc ce n'est pas un cristal. Alors quand on arrive devant un phénomène comme ça, ben on va voir les collègues, on essaye d'en apprendre un peu, de savoir si c'est possible. Alors il y en a qui vont vous dire tout de suite, non, pas de problème, c'est plusieurs cristaux superposés. Ouais. Et comme ils sont superposés selon un axe 5, ben voilà, t'as vu ça. Il va passer presque 2 ans comme ça à aller voir les uns et les autres, à essayer d'avoir des opinions sans que...
Donc Monsieur Schechtman, c'est
Danny ça. Schechtman, ouais. Voilà. Daniel Schechtman, c'est un chercheur israélien qui passe à ce moment-là une année sabbatique au NBS, National Bureau of Standard, qui aujourd'hui est le NIST, National Institute of Standard and Technology, à Washington. Bref, petit à petit, il va pouvoir avoir un de ses collègues qui va dire, ah bah peut-être que c'est un amorphe, sans forme, mais qui a des propriétés remarquables, ce qui diffracte. Oui, c'est assez bizarre. Et puis, il va voir le grand maître du NIST, du NBS, qui s'appelle John Kahn, John Werner Kahn, qui est un gourou. Moi, je l'ai appelé comme ça. Et celui-ci va comprendre que derrière ça, il y a certainement une nouvelle question à se poser. Il me demande d'étudier l'affaire pour savoir si mathématiquement il y avait la possibilité de le faire. La réponse est oui. Un papier, un article est sorti en 1984.
Oui. Ça fait deux ans. D'accord. 2 ans après sa découverte.
Et la chance veut qu'à ce moment-là, en France...
Et donc, il nomme ça quasi-cristal ?
Non.
Le mot est inventé à ce moment-là ou pas ?
Non. C'est le référé un des référés qui s'appelle Paul Steinhardt, qui travaillait là-dessus de façon théorique et qui avait appelé ça quasi-cristal, quasi-périodique cristal.
C'est ça, ouais.
À partir de ce moment-là, en janvier 1985, a lieu un extraordinaire colloque à l'Institut des hautes études scientifiques auquel assistent des jeunes chercheurs extraordinaires qui s'appellent André Katz et Michel Duneau de l'École Polytechnique et qui, eux, avaient indépendamment fait une théorie du quasi-cristal.
Ouais.
Et on va se rencontrer comme ça. Fin janvier, on a déjà à peu près compris la structure, pour s'apercevoir, et j'en aurais fini, que ces quasi-cristaux avaient été inventés en 1972 par M. Yves Meyer, dont vous avez sans doute parlé aujourd'hui, qui vient
absolument
de recevoir le prix Abel. Ouais.
Et les Français, bravo, hein, parce que vous avez joué un rôle très important aussi hein, sur cette découverte.
Oui, oui. Michel Duneau et André Katz ont inventé la méthode de coupe et production. Et puis Yves Meyer, donc, qui avait inventé les quasi-cristaux avant tout le monde.
Et ce Nobel, donc, en 2011, qui vient couronner justement toutes ces années hein, de théorie, de découverte et d'observation hein, des quasi-cristaux auxquels vous avez contribué largement, Denis Gracias. Merci beaucoup à tous les deux. Et oui, c'est déjà terminé, ça passe vite. Hein. Nous aussi, on a une régularité ici qui est redoutable avec ce dossier. Sylvain Ravi, merci également à vous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler des cristaux et des quasi-cristaux dans l'émission. Merci beaucoup. À bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Le docteur qui pique, bonjour. Comment
bonjour
allez-vous? Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine, Dominique?
Eh bien, j'ai choisi comme thème une histoire de fesses. Je parle bien sûr des résidus de notre digestion que l'on peut prononcer aussi fesses. Elles hébergent une vedette qu'on ne présente plus, le microbiote, c'est-à-dire le kilo de bactéries qui vivent en symbiose dans notre tube digestif.
Alors c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce niveau-là?
Eh bien, c'est le succès d'un traitement par greffe fécale dans une maladie inflammatoire de l'intestin, la rectocolite hémorragique. Ce que l'on appelle publiquement une greffe fécale, c'est l'administration d'un lavement contenant des extraits de sel issus de donneurs sains, pour parler crûment, un lavement au caca.
D'accord.
L'efficacité de la greffe fécale avait déjà été démontrée pour une forme de diarrhée très grave liée à la prise d'antibiotiques, mais les résultats dans les maladies inflammatoires de l'intestin étaient peu convaincants. Or, l'équipe australienne qui vient de publier son étude dans la revue Lancet a testé un traitement intensif avec un lavement de 5 jours par semaine pendant 2 mois et surtout un mélange de microbiote issu de multiples donneurs.
Et alors ?
Eh bien, le résultat est brillant. 3 fois plus de rémission chez les malades recevant un lavement au microbiote que chez ceux recevant un lavement placebo d'aspect identique, odeur, couleur.
C'est très ragoûtant
tout
ça.
Ce qu'il faut. Oui. Ah, il faut être motivé, hein, c'est sûr. Alors bon, l'étude était de petite taille avec seulement quelques dizaines de patients dans chaque groupe et l'intervalle de confiance autour du résultat est donc très large mais quand même significatif sur le plan statistique.
Et les effets secondaires?
Écoutez, pas de problème dans l'ensemble mais il y a quand même eu une aggravation brutale chez un malade nécessitant une opération en urgence sans qu'on puisse affirmer que le traitement était en cause. En fait, j'ai l'impression, hein, toute proportion gardée bien sûr, hein, de vivre ce qu'ont ressenti mes confrères lors de l'arrivée des premiers antibiotiques qui d'ailleurs étaient eux aussi issus du vivant. Hein. Alors attention, hein, on en est seulement à traiter les maladies inflammatoires et auto-immunes, mais bon, qui sait de quoi sera fait l'avenir. Une autre donnée passionnante issue de l'essai australien, c'est la comparaison de l'efficacité du traitement en fonction des bactéries administrées ou du donneur. Et dans cette étude, un des donneurs a fourni des fesses particulièrement efficaces.
Ah bon ?
Eh oui. Mmh. Et donc, certains de nos auditeurs ont peut-être, sans le savoir, une mine d'or dans leurs intestins.
Sûrement. Et comment on peut le savoir ?
Eh bien, on commence à voir apparaître sur les forums des propositions d'achat de sel, si, si, par des malades.
Non.
Et je sens que malheureusement, les vendeurs vont bientôt débarquer en mettant en avant le nombre de guérisons obtenues avec leurs excréments magiques.
Mon Dieu.
Car nous avons un texte, le texte de la loi de bioéthique de 1994, mais il ne prévoyait pas la greffe fécale. Attention, je mets en garde nos auditeurs qui pourraient être tentés par l'automédication. Ce serait une très mauvaise idée dans l'état actuel de nos connaissances. Laissons d'abord la recherche avancer.
Voilà, les excréments magiques, hein, c'est voilà. Un bon titre de chronique, ça, aujourd'hui.
Non, c'est une histoire de fesses.
Histoire de fesses et de fesses. Voilà, on peut réécouter attentivement votre chronique sur franceinter.fr.